Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, ouverture ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine. En prélude à ces assises, la réunion inaugurale du comité des chefs d'État et de gouvernement sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine s'est tenue ce vendredi. Une étape stratégique vers la concrétisation du marché unique africain. La RDC y a pris part à travers son ministre du Commerce extérieur. Processus de paix dans l'est de la RDC. La MONUSCO multiplie des consultations sur l'application de l'accord conclu entre Kinshasa et l'AFC M23. La chef intérimaire de la mission onusienne en visite de travail dans la ville de Goma évoque un appui progressif aux mécanismes de suivi. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables leurs obligations fiscales avant le 16 février entre TVA, impôts sur le revenu et déclarations annuelles. Entreprises et particuliers sont concernés. Notre invité Josué Kabwe Mukanza, coordonnateur de la cellule des études de la DGI, apporte des précisions à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. En marge du 39e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie, la réunion inaugurale du comité des chefs d'État et de gouvernement sur la mise en œuvre de la zone des libre-échange continentale africaine, ZLECAF, s'est tenue ce vendredi. Présidée par le chef de l'État kényan William Ruto, cette rencontre stratégique marque une nouvelle étape dans la concrétisation de la ZLECAF, projet phare de l'intégration économique du continent. Objectif, promouvoir le commerce intra-africain et bâtir un marché unique africain capable de stimuler la croissance, l'industrialisation et la compétitivité des économies nationales. La République démocratique du Congo a pris une part active à ces assises à travers son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga. Les détails avec Babel Mpongo Masimango.
À l'issue des travaux, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à s'impliquer davantage pour accélérer la mise en œuvre effective de cet ambitieux accord. Les pays membres sont ainsi appelés à mettre en place des politiques publiques adaptées, notamment dans les secteurs clés du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie et des infrastructures, cela afin de lever des barrières structurelles qui freinent les échanges sur le continent. Représentant le président Félix Tshisekedi, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a plaidé pour un engagement renforcé des ministères sectoriels. C'est notamment ceux du commerce extérieur et des finances à travers une approche transversale et inclusive. Il a également insisté sur la nécessité d'un pragmatisme économique face aux défis fiscaux. Julien Paluku appelle ainsi à dissiper les craintes liées à une éventuelle baisse immédiate de recettes douanières. Selon lui, les États doivent plutôt privilégier les gains structurels à court, moyen et long terme en s'inspirant d'expériences réussies telles que l'Union européenne ou encore le Mercosur en Amérique du Sud. Avec cette réunion inaugurale, l'Afrique réaffirme sa volonté d'approfondir son intégration économique et de faire de la ZLECAF un levier concret de transformation structurelle du continent.
Nous le disions au sommaire, à Goma, au Nord Kivu, la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu conclu entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 a été au centre d'une série de rencontres tenues vendredi entre la chef intérimaire de la MONUSCO et différentes parties prenantes. En séjour dans la ville depuis jeudi, Madame Viviane Van de Perre s'est entretenue successivement avec le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL élargi à la MONUSCO ainsi qu'avec la coordination politique de l'AFC M23. S'exprimant devant la presse à l'issue de ces échanges, la chef intérimaire de la mission onusienne en RDC souligne que l'appui de la MONUSCO à ces mécanismes de suivi du cessez-le-feu sera progressif. Madame Viviane Van de Perre dans ses propos recueillis par Bernard Denyangi.
Nos échanges ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par l'AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, avec qui je me suis entretenu ce matin. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive, en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Pendant ce temps, à Ituri, une attaque attribuée à la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, a visé hier un poste de police à Fataki, dans le territoire de Djougou, à 85 km au nord de Bounia. Bilan provisoire, un policier tué, un autre blessé et trois armes emportées. Des affrontements ont aussi été signalés à Lalou et à Boulé, entre les forces armées de la RDC et cette milice, faisant un mort et plusieurs blessés. Des sources locales demandent au gouvernement de démanteler ces groupes armés qui déstabilisent la région. Isaac Raymond.
Les miliciens de la CRP ont intensifié leurs attaques cette semaine contre les positions des forces de l'ordre dans plusieurs localités du territoire des Djougou, notamment Fataki, Boulé et Lalou. À Fataki, l'attaque contre un poste de police a coûté la vie à un policier. Un autre a été blessé et trois armes ont été récupérées par les assaillants. L'intervention des FARDC a permis de repousser les miliciens hors de ces centres commerciaux situés sur la route nationale numéro 27. Les trafics et les activités économiques ont été perturbés pendant plusieurs heures. La veille, des combats ont également été signalés à Boulé. Une femme blessée a été transférée pour des soins à Fataki. Un militaire des FARDC a été tué à Lalou, toujours à Djougou. D'autres personnes ont été blessées aussi bien dans les rangs de l'armée que parmi les miliciens de la CRP. Par ailleurs, des obus ont été tirés par des présumés miliciens de la CRP en direction de l'école primaire Tuungane, située près de Kpangba et du site de déplacés Tuungane. Les projectiles ont endommagé des vitres sans faire de victimes. Cependant, ces incidents ont provoqué une vive panique au centre de la population qui redoute une recrudescence des affrontements. Des sources locales appellent le gouvernement à prendre au sérieux les menaces que représente cette milice et à engager des mesures concrètes pour son démantèlement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
En réaction à ces attaques, le gouverneur des provinces rassure la population. Le général Johnny Luboya affirme que l'armée traque activement les miliciens de la CRP afin de restaurer l'autorité de l'État dans la zone. Il précise que les FARDC affinent leur stratégie pour éviter des pertes civiles, accusant l'ennemi d'utiliser les habitants comme boucliers humains. Le gouverneur assure également que les forces loyalistes sont déterminées à rétablir la paix dans l'ensemble du territoire de Djougou. Le général Johnny Luboya, dans ses propos recueillis par Isaac Raymond.
Nous devons faire très attention aux dommages collatéraux. Ces criminels-là utilisent les déplacés, des vulnérables. Ils attaquent des sites des déplacés et ils vont se cacher dans les sites des déplacés. Et nous, en tant que gouvernement, quand nous ripostons, nous ne pouvons pas riposter n'importe comment. Dès que nous voyons que la population est en danger, on se retire. On ne se retire pas parce qu'ils sont forts. Non, loin de là. Je crois que s'ils se mettent ça en tête, ils vont déchanter. Je crois que vous me connaissez. Quand je prends la décision, là, c'est un message que j'envoie. Je dis non, ne faites pas ça. Et j'ai dit à la population de Boulé, parce qu'ils sont vraiment résilients, ces vulnérables-là, ces victimes-là, ce sont des victimes. Ils sont deux fois victimes. Je leur dis, je ne peux pas leur demander de prendre leur balle en patience, mais je leur dis seulement d'être serein. Et d'ici là, ça va s'arrêter.
Restons en Ituri pour vous dire que la MONUSCO poursuit la mise en œuvre de son mandat de protection des civils et son appui aux populations vivant dans des zones affectées par l'insécurité et le manque d'accès aux soins. Dans le territoire de Djougou, des casquets bleus ont procédé à l'évacuation d'urgence des civils blessés à Boulé à la suite d'affrontements entre les FARDC et les membres du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP. Parallèlement, dans le village de Katoto, une campagne médicale a permis de prendre en charge plus d'une centaine de patients. Les explications du major Ahmed Bouhia, officier de l'information publique de la force et de la MONUSCO, au micro de Martial Papimoukeba.
À la suite d'un incident survenu le 7 février 2026 à Boulé, les casques bleus de la MONUSCO, basés à Bayo, ont mené une intervention médicale d'urgence pour des civils blessés. Alertés de la présence de plusieurs victimes, les casques bleus ont pris en charge 7 civils, dont 5 femmes et un enfant. Après l'évaluation médicale, 4 patients ont été stabilisés après les premiers soins et 3, dont les blessures étaient graves, ont été évacués par ambulance vers l'hôpital général de Fataki, en coordination avec les autorités sanitaires locales. Par ailleurs, à la suite d'un échange direct avec les chefs et leaders communautaires le 10 février qui ont exprimé des besoins sanitaires urgents à Katoto, le contingent bangladais de la MONUSCO a organisé le 11 février une campagne médicale dans le village. Au total, 118 patients, dont 40 femmes et 38 enfants, ont été pris en charge pour diverses maladies courantes. Des médicaments ont été distribués et des séances de sensibilisation ont porté sur l'hygiène, la nutrition et la prévention des maladies avec une attention particulière aux enfants et aux personnes âgées.
Éducation à présent. Au moins 13 479 candidats répartis dans 251 centres prennent part à l'épreuve préliminaire de la 59e édition de l'examen d'État lancé ce samedi à travers le pays. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale souligne que le lancement de cette session témoigne de la vitalité du système éducatif national. Raissa Malou salue également la résilience des candidats du Nord Kivu et du Sud Kivu qui passent ces examens dans un climat de tension. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Les doyens des candidats engagés à cette session préliminaire est âgé de 63 ans, tandis que le plus jeune en compte 17 ans. La directrice de la province éducationnelle Moamba, Astrid Nambouyi, note que cette épreuve permet au gouvernement de sélectionner les autodidactes susceptibles de participer aux examens hors session et à la session ordinaire. Elle salue le courage et l'abnégation des candidats ayant décidé de parachever leur cycle scolaire. Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale assure de l'accompagnement du gouvernement aux côtés des candidats du Nord et du Sud Kivu qui représentent à elle seule 25% des effectifs avec au moins 3351 inscrits. Raissa Malou.
Malgré les épreuves, vous représentez à vous seul 25% des effectifs nationaux. Votre résilience est le plus beau message d'espoir pour notre pays. L'État restera à vos côtés pour garantir que votre parcours se poursuivre dans les meilleures conditions. Je vous invite donc à aborder ces épreuves avec sérénité et discipline. Travaillez avec honnêteté, car la valeur de votre diplôme dépend de l'intégrité de votre effort.
Elle recommande par ailleurs aux surveillants, encadrés et inspecteurs de travailler avec rigueur et justice afin de préserver l'image de l'examen d'État qui, selon elle, doit rester le miroir de l'excellence et du mérite réel.
Et au Nord Kivu, cette épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2026 a été officiellement lancée ce samedi à l'Institut de Beni, une école publique du chef-lieu provisoire de la province. Au moins 270 candidats, dont une vingtaine de femmes, se sont présentés pour cette étape qui évalue les compétences en français, anglais, mathématiques et culture générale. Les détails avec Marc Emarofimbo.
Les candidats se répartissent en trois catégories. Ceux qui n'ont pas suivi le cursus scolaire régulier, ceux ayant échoué lors d'une session précédente de l'examen d'État et ceux ayant réussi une session antérieure dans une option donnée et souhaitant repasser l'examen pour améliorer leurs résultats. Prisca Kama, la coordinatrice provinciale en charge de l'éducation au Nord Kivu, qui a présidé la cérémonie, a encouragé les candidats à rester concentrés sur leurs ambitions futures et à persévérer dans leurs efforts. Prisca Kamala.
Chers participants, votre inscription sur la liste des candidats est une preuve éloquente que vous avez des ambitions que vous comptez matérialiser dans le futur. Je vous exhorte à tenir bon et aller jusqu'au bout. Que l'avenir meilleur auquel chacun aspire, c'est maintenant qu'il faut commencer à le préparer. En ma qualité de parent, je vous félicite pour avoir pris ce courage de participer à cette épreuve préliminaire. Vous êtes invité à la discipline et à la concentration.
Le chef du centre de passation a précisé que le nombre de candidats pourrait encore augmenter car d'autres se sont inscrits samedi matin. Les épreuves vont durer 4 jours. Beni, Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Cette autre nouvelle, dans la province du Kwilu, au moins 5 personnes sont mortes à la prison de Bulungu depuis le début de l'année 2026, en raison notamment de l'absence des magistrats dans cette partie du pays. Plusieurs dossiers des détenus ont déjà été fixés devant les juges, mais restent en suspense. Et pour cause, le tribunal des grandes instances de Bulungu a cessé de fonctionner depuis le 15 décembre 2025. Le président de la société civile de Bulungu, maître dirigeant Munzende, dénonce une violation du droit à la justice. On l'écoute au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement, partenaire des radios Kapi.
Chose déplorable est que le tribunal de grande instance de Bulungu n'a que le président qui est chef de juridiction avec un seul juge et on assigne un défenseur judiciaire pour compléter les sièges. Et nous sommes en train de passer au moins plus de deux mois. Les dernières audiences tenues devant le tribunal de grande instance de Bulungu, c'était le 15 décembre 2025. Et jusqu'aujourd'hui, aucune affaire est passée. Mais nous venons de constater que depuis les mois de décembre jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs cas de décès de détenus qui n'ont pas connu leur sort, mais qui sont décédés en cours d'instance pour les uns, pour les autres. Le dossier n'est pas encore fixé. Même au sein de la cour d'appel du Kwilu, on pouvait prendre ne fût-ce qu'un magistrat au niveau du tribunal de grande instance de Kikwit, afin de faciliter le bon fonctionnement de la justice.
L'actualité internationale.
Le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani, s'est exprimé pendant un peu plus de 3 heures dans un message à la nation, suivi d'un long entretien retransmis sur la radio-télévision d'État où le général Tiani a fait le panorama de l'état sécuritaire, économique et diplomatique du Niger en multipliant les critiques à la France et ses laquais ouest-africains. De l'attaque récente contre l'aéroport de Niamey à l'accaparement des ressources nationales, le général Tiani met en cause la présence française dans chacun de ses dossiers.
L'invité.
La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables plusieurs obligations fiscales majeures dont l'échéance est fixée au 15 février 2026, exceptionnellement reportée au lundi 16 février, la date tombant un dimanche. Impôt sur les revenus des personnes physiques, TVA, retenue à la source ou encore déclaration annuelle liée aux rémunérations de 2025, ces obligations concernent aussi bien les entreprises que les particuliers. Pour aider les contribuables à mieux comprendre ce qu'ils doivent déclarer, comment le faire et dans quel délai, nous recevons Josué Kabwe Mukanza, coordonnateur de la cellule des études de la DGI. Il s'entretient avec Jocelyne Moussa Oponde.
Monsieur Josué Kabwe, bonjour.
Bonjour madame.
Pouvez-vous expliquer simplement à nos auditeurs qui sont les contribuables concernés par cette échéance?
Je voudrais vous préciser d'abord pour une petite histoire que cette échéance du 15 février elle est différente des autres échéances parce que pour rappel, dans notre pays, il y a une réforme de la fiscalité directe qui a vu le jour depuis le 30 novembre 2023. Le président de la République avait publié une loi et c'est la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP. Et un délai de 24 mois était donné pour la mise en œuvre de cette réforme. Donc c'est à dater du 1er janvier 2026 qu'il y a la mise en œuvre de cette réforme. Alors, comme je le disais, au 15 janvier 2026, on a eu à déclarer les impôts qui sont relatifs aux revenus 2025. Mais c'est pour la première fois que la réforme qui a été promulguée sera mise en œuvre parce que c'est alors qu'on va déclarer pour la première fois ces nouveaux impôts. Donc, le système d'imposition directe, le système d'imposition cédulaire qui était en place jusque-là, sera remplacé à cette échéance par les nouveaux impôts.
Et quels sont les principaux impôts visés par cette échéance?
Il s'agit des retenues à la source de l'IRPP, mais bien sûr des autres prélèvements, parce qu'il n'y a pas que les deux principaux impôts, il y a aussi 3 autres prélèvements. Il y a donc le prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, le prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents et le prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes. Ça, ce sont les nouveaux impôts, mais n'oubliez pas la taxe sur la valeur ajoutée qui a toujours été déclarée toujours le 15 de chaque mois. Elle sera aussi déclarée ce lundi 16.
Et qu'est-ce qui change dans cette nouvelle nomenclature?
Beaucoup de changements parce que l'ancien système, c'était un système cédulaire. C'est-à-dire, les revenus étaient imposés par cédule, par nature des revenus. Mais pour le moment, en ce qui concerne les personnes physiques, il y a la sommation de tous les revenus de la personne physique qui sont imposés. Donc, comme on dit, l'IRPP, c'est un impôt global, un impôt qui frappe l'ensemble des revenus de la personne physique. Mais ça dépend maintenant de la nature des revenus catégoriels qui composent ce revenu global. Et l'IRPP, naturellement, prend en compte 6 catégories de revenus. Vous avez d'abord les revenus salariaux et revenus assimilés qui seront concernés à l'échéance. Vous avez les revenus des capitaux mobiliers. Vous avez les plus-values réalisées par la personne physique. Ça, c'est une innovation parce que ces revenus n'ont jamais été imposés par ailleurs. Et vous avez les bénéfices. Et les bénéfices, vous en avez 3 sortes aussi. Mais les bénéfices ne seront pas concernés à cette échéance.
Vous avez parlé des obligations liées au personnel expatrié. ce qui est différent ou qui remplace l'IR.
Effectivement, ça remplace l'IR, mais le fonctionnement, il est presque le même.
Quelles sont les procédures à suivre pour déclarer et payer ces impôts?
Parce qu'il s'agit de redevables légaux, c'est-à-dire ceux qui retiennent à la source l'impôt pour le reverser. La démarche, elle est la même. Les redevables doivent aller auprès de banques ou institutions financières pour payer, avoir les preuves de paiement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu assez de sensibilisation sur cette réforme? Est-ce que les contribuables, ceux qui sont appelés à payer tous ces impôts, ont été vraiment sensibilisés?
D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a un principe qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». La loi a été promulguée dans le journal officiel de la République démocratique du Congo, ça c'est un. La DGI a sensibilisé avec tous ses experts à travers toute la République. Et nous sommes de ceux-là qui avons parcouru le pays pour sensibiliser. Et nous avons formé effectivement aussi la population et nous continuons à le faire. Et je pense que la population est sensibilisée. Et surtout que pour cette échéance du 15 qui tombe le lundi 16, ce ne sont pas des novices, mais ce sont des gens qui sont habitués à le faire. Je pense qu'il n'y aura pas de problème et nous nous attendons à beaucoup de recettes.
Monsieur Josué Kabwe Mukanza, merci.
Merci madame.
Notre invité répondait aux questions de Jocelyne Moussa Oponde. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, mis en onde par Pierre Diassinois, coordonné par Richard Junior Kamunga et Jude Mister Bilanda. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons un excellent week-end.